Ce soir, Littérature Audio vous présente une scénette en un acte de Maurice Leblanc, une aventure d'Arsène Lupin. Elle a été représentée du 15 septembre au 15 octobre 1911 au Music Hall La Cigale à Paris. Les personnages: Dimbleval, sculpteur. Marceline, la fille de Dimbleval. Arsène Lupin. Jacob, le complice d'Arsène Lupin. Maresco, sous-chef de la sûreté. La scène représente un atelier de sculpteur avec, sur la droite, en avant, un paravent qui dissimule à demi une sorte de cabinet de toilette pour les modèles. Au fond, la porte principale. Quand elle est ouverte, on aperçoit un vestibule avec la porte d'entrée. À gauche, deux portes. À droite, tout à fait au premier plan, une porte plus lourde avec verrou et chaîne de sûreté. L'atelier n'a pas de fenêtre, mais un vitrage en plan incliné formant une partie du plafond. Un secrétaire, tabouret, stèle, ébauche, chevalet, quelques fauteuils et chaises de cuir, robes, manteaux et accessoires pour modèles. Téléphone sur la table. Une statue de Cupidon. Au lever du rideau, la scène est vide, l'électricité éteinte. La porte d'entrée du fond s'ouvre vivement. Marceline entre en robe de bal, suivie de son père.
Tu n'as vu personne dans l'escalier ?
Eh non, personne.
En tout cas, nous avons été suivis.
Elle allume.
Mais par qui, mon Dieu ?
Quelqu'un nous épiait à la porte de Madame Valton Trémort.
Marceline, tu es absurde avec tes frayeurs.
Absurde ? Aussi, pourquoi m'obliges-tu à mettre ce collier ?
Elle va dans sa chambre par la porte de gauche, au fond, retire son manteau et revient.
Comment, ma fille ? Un collier historique qui m'a rendu célèbre. Dimbleval ? Ah oui, le sculpteur qui offre à sa fille des colliers d'émeraude. Ce qui m'a valu la commande de mon Cupidon, ma plus belle œuvre.
Il ne m'appartient même pas.
Qu'est-ce que tu chantes ? J'ai prêté 10 000 francs à la duchesse de Brève contre le dépôt de ce collier. Elle n'a pas pu me les rendre à la date fixée, et tant pis pour elle.
Mais il en vaut 10 fois plus.
Tant mieux pour moi.
Il paraît que tu n'as pas le droit, papa.
Ah oui, le prêt sur gage. Que veux-tu, fifille ? Il faut bien se créer quelques ressources, puisque l'art ne suffit plus aujourd'hui.
Cela te regarde, papa. En attendant, moi, je ne vis pas quand ton collier est ici. Un jour ou l'autre, quelque malfaiteur...
Mais puisque je le reporte demain au Crédit Lyonnais...
Et si on vient cette nuit ?
Pourquoi cette nuit ?
Ce matin, ton modèle, le vieux russe, t'a parfaitement vu quand tu le mettais dans ce secrétaire.
Ah ! Aussi le mettrai-je ailleurs. N'importe où, dans un endroit où précisément l'on ne cache rien de précieux. Tiens, dans ce vase, là, aucun danger. Le téléphone.
Oui, eh bien, vas-y, papa.
Le téléphone à 2 heures du matin. Allô ? Oui, c'est moi. La préfecture de police ? Eh bien, vous dites ? Hein ? Quoi ? Est-ce possible ? Allô ? Allô ? Zut, coupé.
Qu'y a-t-il ?
Un rapport au service de la sûreté. Nous sommes menacés d'un vol pour cette nuit.
Le collier, tu vois, mais c'est affreux. Et les domestiques, à qui tu as donné congé ?
6 inspecteurs sont en route sous la direction du sous-chef Maresco, que je connais justement.
S'ils arrivaient trop tard ?
Eh bien quoi, je suis là. Et puis nous sommes 3 locataires dans la maison.
Mais l'entrée particulière de tes modèles ?
Prends la clé.
Qu'est-ce que tu fais ?
J'emporte le collier.
Dans ma chambre ?
Oui, je reste avec toi jusqu'à l'arrivée.
Mais je n'en veux pas. Laisse-le ici.
Il pose le vase sur le secrétaire.
Tu as raison. D'ailleurs, il n'y a pas de meilleure cachette. On le cherchera partout, excepté là, je suis tranquille.
Ça m'est égal, il n'est pas dans ma chambre.
Il éteint l'électricité et chacun entre chez soi. La scène reste vide un moment, illuminée par un magnifique clair de lune qui pénètre par le vitrage. Soudain, un léger bruit en haut. Un des carreaux se soulève et l'on voit une grosse corde qui descend peu à peu, se balance et dont l'extrémité s'arrête à 2 mètres du parquet. Et, tout de suite, une ombre se laisse glisser de haut en bas. Lupin, tout en cherchant l'électricité.
« Cordon, s'il vous plaît. Un peu de lumière. »
Lupin est déguisé en apache, longue blouse, chapeau, barbe rousse en éventail. Il prend une glace à main sur la table de toilette et se regarde.
« T'en as une bouillotte. T'as l'air d'une arsouille. »« Arsouille, Lupin. Oh, un revolver, moi qui ai oublié le mien, ça va bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un vaporisateur. »
Le complice se penchant à moitié par la lucarne.
« Lupin !»«
Quoi ?»«
Vous êtes fou !»«
Pourquoi ?»«
La lumière !»«
Elle te gêne ?»«
Oui. » »«
Ferme les yeux. »
Mais...
Ferme la bouche.
Patron.
Oh, dis donc, occupe-toi de ton échelle, Jacob.
Pourquoi m'appelez-vous Jacob?
Lupin, qui examine une photographie.
Tu ne comprendrais pas. Oh, dis donc, c'est bien la jeune personne que j'ai aperçue au bal des Valton-Trémor. Toutes mes excuses, mademoiselle, il a fallu revêtir l'humble uniforme du travailleur. Pauvre gosse, on va lui extraire ses émeraudes. Ah, si le beurre n'était pas si cher.
Il repose le portrait sur le secrétaire.
Voyons, d'après le plan du vieux russe, le vestibule, le couloir précédant la chambre de la petite, celle de la victime, ici l'escalier des modèles, là leur cabinet de toilette, là le secrétaire, tout va bien.
Il tire de sa poche un sac dans lequel il y a un trousseau de clés.
Le secrétaire, 3e tiroir, a dit le vieux russe.
Oui, patron.
Nous commençons. Le vol des émeraudes, drame en 5 actes, musique de Lupin. L'ouverture en clé arsène perfectionnée à 4 temps. 1, 2, 3, 4.
Le meuble est ouvert.
Là, comme une fleur. Il te faudrait 50 ans à toi pour trouver ça. Ah, ça par exemple.
Quoi?
Le 3e tiroir est vide.
Mais les autres?
Goujave. C'est vrai, on se dérange, on risque sa peau et puis la peau.
Alors filons.
Ah non, pas encore, c'est trop bête. Il doit coucher avec Capon.
On va se faire pincer.
La barbe. Jacob.
Patron.
Remonte l'ascenseur.
Quoi?
Fais ce que je te dis.
L'échelle est enlevée.
Et après?
Reste à l'affût, surveille le boulevard. Si j'ai besoin de toi, je siffle, va.
Il se dirige vers l'interrupteur, éteint et murmure.
Les 3 coups. Rideau.
Il court derrière le paravent et se dissimule en épiant à travers une fente. La porte de la chambre s'ouvre. Bimbleval apparaît. Il passe la tête, inquiet, et, allongeant le bras, allume. À sa fille qui apparaît sur le seuil, vêtue d'une matinée.
Personne.
Papa, regarde bien.
Puisque je te dis qu'il n'y a personne.
Et la porte?
Je te dis qu'il n'y a personne.
Ah, oh, ce collier!
D'Imbleval, prenant le vase sur le secrétaire.
Pour cela, je suis tranquille. Rien à craindre. Il n'a pas bougé.
Il montre le collier et le remet.
Ah, et puis je t'en prie, du calme.
Ils sortent.
Tu finiras par m'effrayer.
Lupin, allumant et allant au secrétaire. Il a pris le vase et examiné le collier.
Il est gentil. Tiens, pour la peine, je lui laisse le vase et les fleurs.
Il empoche le collier, revient près du trépied, appelle son complice.
Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Psst! Jacob!
Hé, patron!
Où étais-tu?
De l'autre côté. Il y a des gens qui ont sonné en bas. 1/2 douzaine d'hommes.
Vite, l'ascenseur.
Le complice laisse glisser la corde.
Dépêche-toi donc, j'entends du bruit. Eh bien!
Attention, patron! J'ai lâché la corde.
Trop tard! Fiche ton camp.
Mais vous, patron!
Je m'arrangerai, grouille-toi.
Il éteint. La vitre reste ouverte. Lupin s'est caché derrière le paravent. D'Imbleval sort de la chambre et allume.
Mais non, s'il y a du bruit, ce doit être la police. Qui est là? Qui est là?
Moresco, sous-chef de la sûreté.
Dimbleval en refermant.
Ah, je commence à respirer.
Il traverse la Seine.
Voilà, j'arrive.
Et passe dans le vestibule.
Maresco, le sous-chef. Eh bien, je suis frais, moi. Jacob, Jacob.
Il déplace la table, la surmonte d'une stèle, mais la distance à la lucarne est trop grande, il murmure.
Impossible. Eh bien quoi, je ne vais pourtant pas me faire pincer. Si je remettais le bijou.
Après une seconde d'hésitation, il va vers la porte du fond et la ferme à clé.
Il y a personne, cassez pas ma porte, allez chercher le serrurier.
En un tournement, Lupin défait sa blouse et son chapeau, les jette sur la table, au pied de la stèle, bien en apparence, et va se cacher derrière le paravent. Entrée du sous-chef et de ses inspecteurs. Lupin, dissimulé par le paravent, est en habit. Il a enlevé sa barbe rousse, s'est assis et tranquillement se démaquille.
Où est-il ?
Il s'est caché ?
Eh bien, regardez dans ma chambre, Maresco. Il n'y a que là. Passez devant.
Personne. Et derrière ce paravent ?
Il traverse la Seine. Lupin a un geste d'attention. Mais le sous-chef aperçoit la table et la stèle.
Mais non, pas ici. Tenez.
Impossible.
Cependant, cette table, ce trépied, c'est certain, il s'est enfui par les toits.
Mais par où serait-il venu ?
Par le même chemin.
C'est beaucoup trop.
Regardez, il avait des complices. La lucarne est encore ouverte. Peut-on monter sur les toits ?
Il faut redescendre et demander à la concierge l'escalier de service. Notre homme sera loin, si tant est qu'il soit venu par là.
Et quoi, mon cher ? Vous êtes aveugle ?
Montrant la blouse.
Et cela ? Qu'est-ce que c'est ? C'est à vous ?
Non.
Parbleu, c'est la blouse de notre homme. Il s'en est débarrassé pour mieux fuir. Et son chapeau ? Absolument le signalement que m'a donné le vieux russe.
Comment ? Le vieux russe, mon modèle ?
Oui, on l'a ramassé dans un ruisseau, ivre mort, il a bavardé.
C'est donc un complice ?
Le complice d'un individu que nous recherchons depuis quelques jours. Un homme à barbe rousse. Un apache des plus dangereux. Nous savons par le russe que le coup est pour cette nuit. On doit voler un collier.
Non.
Mais si, un collier d'émeraude enfermé dans un secrétaire.
Dans celui-là, sans doute.
Probablement.
Non, pas si bête.
Cependant, vous avez un collier d'émeraude ?
Oui, magnifique.
Où est-il ?
En lieu sûr, à l'abri de toute recherche, j'en réponds.
Mais encore.
Sous votre nez.
Dimbleval.
Là, dans ce vase, tout bonnement. Vous comprenez bien que jamais un cambrioleur ne pourra se douter.
Il regarde le vase, ahuri.
Ah !
Quoi ?
Volé !
Il tombe assis sur un fauteuil.
Qu'on court après lui, qu'on l'attrape !
Il se relève et se précipite vers la chambre de sa fille.
Marceline ! Le collier !
Est-ce possible ?
Hein ? Je te l'avais assez dit, tu as voulu ce collier.
Mais qui l'a volé ?
L'homme à barbe rousse, un apache, un assassin.
Un peu de calme, je vous en prie. Georges, Dupuis, montez là-haut.
Oui, montez là-haut. Ah, si vous croyez qu'il les attendra.
Cependant ?
Mais non ! Et l'autre maison ? L'hôtel du comte de Dreux, les toits communiquent.
Eh bien, allons-y.
Et les jardins de l'hôtel ? Il sautera le mur.
Nous arriverons avant lui.
Non, il faut faire un tour énorme par le boulevard. Ah, c'est affreux.
Cette porte ?
L'escalier de mes modèles.
Où va-t-on ? Sur le boulevard ?
Non, sur la place. Donne la clé, Marceline.
Elle est dans ma chambre.
Et puis non, pas la peine.
Il retombe sur le fauteuil.
Ça rallonge. Ah, il vaut mieux. Je ne sais pas. Ah, il...
Varnier, sur la place, au bas de la sortie. Toi, Dupuis, cours au commissariat de la rue Nemours et ramène une demi-douzaine d'agents. Il a sûrement des complices.
Dimbleval se relevant et montrant la lucarne.
Et si le type revient par là, ma fille ?
Ah, il n'y a pas d'apparence. Mais que mademoiselle ne bouge pas de sa chambre. N'ouvrez à personne, mademoiselle, sauf à votre père et à moi. D'ailleurs, Gontran reste ici et tire s'il le faut. Nous avons affaire à un gaillard des plus dangereux.
Une crapule, un assassin. Vite, Maresco, vite, passez le premier, je ferme à clé.
Ils s'en vont tous, sauf Gontran. Durant toute la scène, Lupin est resté paisiblement assis. Il s'est nettoyé la figure, curé les ongles, a peigné sa fausse barbe et l'a empochée, puis s'est amusé avec les objets de toilette, flacons à odeur, pistolets pulvérisateurs, fer à friser. Maintenant, il se relève, énergique, prêt à l'action. L'inspecteur a fermé la porte du fond. Il s'avance sur le devant de la scène et, tout en examinant le lieu, se dirige vers l'escalier des modèles, passe derrière le paravent et revient au milieu de la scène. Lupin a contourné le paravent en même temps que l'inspecteur qui ne l'a pas aperçu. Revenu à son point de départ, Lupin réfléchit un instant, puis il s'avance sur la pointe des pieds vers l'inspecteur qui roule une cigarette, lui applique sur la bouche une serviette qu'il a trouvée derrière le paravent, le renverse et lui braque un revolver à 20 cm du visage.
« Oh les mains, ne bouge pas, je ne te ferai pas de mal. »
L'inspecteur essaie de se dégager et pousse un grognement.
« Oh, tais-toi !»
Lupin fouille dans sa poche et sort un petit flacon.
« Un peu de chloroforme, ça va te rafraîchir les idées. »
Sous le chloroforme, l'inspecteur s'est endormi.
« Ah, la bonne heure, le petit garçon, on est sage. Tiens, pour la peine, un peu d'odeur. »
Il braque de nouveau le revolver pulvérisateur de la toilette et le saupoudre.
« Fais dodo !»
Puis il roule l'homme jusqu'à la chambre de Dimbleval. Il l'enferme.
« Va, fais dodo !»
Se relevant vivement, il ouvre la porte du fond, court vers celle du vestibule et sort ses instruments pour forcer la serrure. Mais il s'arrête, écoute et murmure.
« Allons bon, ils m'ont barboté mes outils, voleur va !»
Il revient, ferme la porte de l'atelier, réfléchit, se dirige vers la porte des modèles.
« Impossible, il faudrait la clé. Mais alors quoi, enfermé ? Fichu ? Ah mais !» Allons, voyons Lupin.
Il aperçoit le téléphone à côté de lui, réfléchit, regarde la sortie des modèles, puis la porte de Marceline et répète.
« Oui, évidemment, mais il faudrait la clé. »« Après tout, pourquoi pas ? J'ai un quart d'heure, ça suffit. »
Il décroche le récepteur.
« Le 648-75. »« Allô ? Je demande le 648-75. » « Eh bien quoi, pas moyen ?»« La surveillante, alors je veux la surveillante. »« La surveillante ? C'est toi, Caroline ? Écoute-moi bien, chérie. »« Pas un mot, nom de Dieu, écoute-moi ! Lâche ton service. Prends une auto, passe à la permanence, tu trouveras Bernard et Griffin. Dis-leur que je suis cerné dans l'appartement du sculpteur Dimbleval. Il y a des inspecteurs de faction et d'autres au bas de l'escalier des modèles, sur la place. Qu'ils escamotent cela et qu'ils m'attendent. Dans 10 minutes. Ah ! S'il y a d'autres camarades à la permanence, qu'ils viennent tous dans 10 minutes. »
Il raccroche l'appareil, consulte sa montre, puis va vers la porte de la chambre, écoute et vivement frappe.
« Vite, ouvrez ! C'est moi, le sous-chef Maresco, je vous en prie, c'est urgent. Prenez la clé de l'escalier des modèles. »
La porte s'ouvre. Marceline paraît, pousse un cri étouffé. Lupin, avec une autorité violente.
« Taisez-vous, c'est moi !»
Il empêche de refermer la porte, l'amène sur la scène toute tremblante.
« Qui êtes-vous ? »
« Pas un mot, attendez. N'essayez pas de comprendre, je vais vous expliquer. »
Marceline descend, effrayée.
« Et surtout, surtout, n'ayez aucune crainte, je ne veux pas vous faire de mal. »«
Mais enfin, monsieur !»«
Plus bas, je vous en prie. Il ne faut pas qu'on vous entende, ni qu'on m'entende. »
Il va fermer la porte au fond.
« Pour des raisons très graves, il ne faut pas qu'on sache que je suis là auprès de vous et que je suis venu pour vous. »« Oui, pour vous !» Ce soir, vous étiez au bal des Valtontrémors. Je vous ai vu. Oh, ce n'était pas la première fois. Je vous suis partout. Aux courses.
Aux courses ? Mais je n'y vais pas.
Si, si, aux courses, dans les magasins. Et chaque fois que vous allez au théâtre.
Jamais ?
Oh, je vous en prie, ne m'interrompez pas. Nous n'avons que 10 minutes. Et depuis si longtemps, je cherche une occasion de vous parler. Depuis bien plus que ça. Enfin, ce soir, il y a eu ce bal des Valtontrémors, qui sont mes amis, une femme charmante. Tous les jours au cercle, son mari et moi...
Mais elle est veuve.
Oui, depuis que son mari est mort. Mais avant, il devait me présenter. Et je suis resté là à vous regarder. Oh, vous ne pouviez pas me voir, je me cachais de vous. Je suis horriblement timide. Comment vous aborder ? Alors j'ai pensé qu'ici, et je suis venu au hasard. Et c'est comme ça que j'ai été prise au milieu de ce cambriolage, ce soir. Je voulais vous voir, vous parler, et m'en aller aussitôt. Oui, m'en aller tout de suite. N'est-ce pas, il ne faut pas qu'on me rencontre. Je vais partir par cette issue. Il n'y a que celle-là de libre. Et tout de suite, vous comprenez, n'est-ce pas?
Non, non, je ne comprends pas. Je suis rentrée avec mon père.
Eh bien?
Nous avons fermé. Alors, vous, comment?
Eh bien voilà, ça n'a aucune importance.
Mais si, vous êtes venu avec cet homme.
L'homme à la barbe rousse?
Laissez-moi, je veux...
Où allez-vous?
Elle s'arrête, interdite. Il se domine et doucement, l'obligeant peu à peu à se rasseoir.
Oh, je vous demande pardon, pardonnez-moi.
Il regarde furtivement sa montre et murmure.
Nom de Dieu.
Puis il reprend, très humble au hasard des paroles, sans s'écouter pour ainsi dire et se contredisant.
Eh bien oui, je suis venu avec cet homme.
Mouvement de Marceline qui veut remonter à la porte du fond.
Non, non, soyez sans crainte, je ne suis pas son complice. Oh non, un pareil gredin, le dernier des misérables. Mais je connaissais son projet et j'en ai profité pour venir. Je voulais emporter quelque chose de vous. Non, pas le collier, c'est lui qui l'a pris, je vous le jure. Mais autre chose, n'importe quoi, votre portrait... Oui, tenez, je l'ai pris, le voici. Je vous le rends. Vous voyez que je suis un honnête homme. Vous voyez. Je vous en prie, renvoyez-moi, mettez-moi à la porte, je vous en prie. Sans quoi je vous dirai des mots que vous ne devez pas entendre. J'aurais voulu me taire, je ne peux pas. Je vous aime. Je ne pense qu'à vous, et c'est une telle joie que vous le sachiez, et que vous ayez consenti à m'écouter. Et je vous dis tout, mon amour, ma peine infinie, mon chagrin de ne plus vous voir et mon dernier adieu, puisque tout est fini et que c'est la minute horrible. Ah, je vous aime, je vous aime. Donnez-moi la clé.
Les mots ont grisé Marceline. Le son de cette voix, l'étrangeté de la scène, tout l'a bouleversée. C'est un instant de vertige où elle perd conscience de la réalité. À son insu, presque, elle se laisse prendre la clé.
Merci, oh merci.
Il se relève triomphant et murmure.
Ouf, ça y est.
Il va vers la porte, mais au moment d'introduire la clé, il se retourne et il voit Marceline la tête entre ses mains. Il s'arrête, réfléchit, devine ce qui s'est passé en elle et revient très ému à son tour.
Ne dites rien, je vous en supplie, et pardonnez-moi. Il y a la vie, vous ne pouvez pas savoir. Les circonstances qui vous poussent à droite, à gauche surtout. Et puis un jour on se trouve en face de deux yeux comme les vôtres qui vous regardent, alors...
Allez-vous-en!
Je ne veux pas vous voler votre sympathie. Je ne veux pas vous laisser je ne sais quelle image d'amoureuse héroïque. Oubliez toutes les paroles que je vous ai dites, ce sont des mensonges. Un vilain rôle que je jouais.
Allez-vous-en! Allez-vous-en!
Ah que la vie est bête, je me sens honnête à vous regarder. Il est temps que je m'en aille.
Il se dirige vers la porte de l'escalier des modèles et...
Trop tard!
Quoi?
Vous voyez, il ne faut pas trop m'en vouloir si j'ai menti pour avoir cette clé. Votre joli geste de me la donner m'a rendu sincère. La sincérité est un luxe. Voici votre clé, je ne peux plus m'en servir.
Vous êtes fou! Il est temps encore! Oh mon Dieu, c'est vrai! J'entends!
Non, non, ce n'est rien!
Ah!
Mais non, c'est la police!
Mon Dieu!
D'Imbleval rentrant avec Marescot.
Ah ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous, monsieur?
J'étais justement en train de l'expliquer à mademoiselle. Je me suis trompé d'étage.
Trompé d'étage? Je connais tout le monde ici. Votre nom, monsieur?
Lupin tire une carte et la donne.
Horace Daubry, explorateur. Explorateur?
Explorateur. De passage à Paris, je rendais visite à un de mes amis au-dessus.
Au-dessus? C'est le toit.
Lupin essaie de passer, le sous-chef s'y oppose.
Descendons, je vous expliquerai.
Expliquez-vous avec monsieur d'abord.
D'Imbleval, le prenant par le bras.
Comment êtes-vous venu ici?
À pied.
Je vous demande, comment vous êtes entré?
Par la porte.
Impossible, elle était fermée. Répondez-moi de la façon la plus précise, monsieur, sans quoi...
Il regarde sa fille.
Sans quoi je pourrais supposer que quelqu'un vous a ouvert, monsieur, et je voudrais savoir à quel moment, car la maison était gardée. Mais réponds, toi, tu étais là, tu sais, tu parlais avec ce monsieur. Alors, Alors, réponds.
Eh bien, oui, papa.
Ah. Monsieur le sous-chef, ceci est une affaire de famille qui ne regarde pas la police. Mais réponds, toi.
Non, mademoiselle, non, je n'accepte pas. Non, pour rien au monde. Le nom que porte cette carte n'est pas le mien. Mon nom est plus scandaleux. Mais c'est le nom d'un honnête homme à sa manière. D'un homme qui aimerait mieux vous tuer tous les deux que de faire le plus léger tort à une femme. Et je ne suis pas venu ici pour faire la cour à mademoiselle. J'avoue pourtant que, depuis que j'ai eu l'honneur de la voir, il est très possible que je revienne, ne fût-ce que pour vous demander sa main.
En ce cas, monsieur, pour quel motif ?
Allons, voyons, Maresco, ne vous laissez pas berner. Je vous dis, moi, que cette affaire ne regarde pas la police.
Eh bien, qu'est-ce qu'il vous faut ?
Vous voudriez nous faire croire, peut-être, que vous êtes venu pour le collier.
Le voici sur la table.
Hein ?
Voleur.
Ingrat.
Voyons, voyons. Le signalement parle d'un homme à barbe rousse. Ah ça ?
Lupin, montrant sa fausse barbe.
La barbe.
C'est bien celle-là. Et l'agent que j'avais laissé en faction.
Oh, il était si fatigué, je l'ai envoyé coucher.
Ah ça, mais qui êtes-vous donc ?
Lupin lui passe une carte.
Tiens-toi bien, gendarme.
Arsène Lupin.
Mon Dieu, oui, on fait ce qu'on peut.
Le sous-chef court jusqu'à la porte du vestibule. Lupin s'incline devant Marceline.
Mademoiselle, il va se passer ici des choses un peu brutales. Le sang va couler, peut-être. Ce n'est pas très joli.
Ouvrant la porte de la chambre.
Je vous en prie.
D'Imbleval poussant sa fille.
Va !
Elle s'arrête sur le seuil, hésite et passe sans paraître voir Lupin. Il la suit des yeux. Elle sort.
Es-tu bien sûr d'être le père de ta fille ?
Hein, vous dites ?
Je dis qu'il est matériellement impossible qu'un homme comme toi soit le père d'une fille comme elle.
Et puis, brusquement, il se tourne vers le sous-chef.
Et maintenant, la rigolade. J'espère que tu n'es pas tout seul.
J'ai des hommes sur le toit, j'en ai d'autres au bas de cet escalier, ça n'est pas trop. Si tu es Lupin, le commissariat est prévenu, rends-toi.
La garde meurt, et encore, je dis ça parce que je suis poli.
Le sous-chef braquant son revolver.
« Rends-toi, je te dis !»
Lupin face au revolver et d'un signe de main.
« Un peu plus à droite, encore, un peu plus haut. »«
Pas de blague, tu te rends. »«
À l'évidence, toujours. »«
Tes armes !»
Lupin lui donne le pistolet pulvérisateur que le sous-chef empoche vivement sans le regarder.
« Attention, il est chargé !»«
Maintenant, suis-moi !»
Jusqu'au bout du monde. Le premier qui avance, je lui brûle la cervelle.
« Tant pis pour toi, je tire !»«
T'oserais pas !»
Une, deux...
Pousse.
Quoi ?
Pousse, j'ai dit, pousse. Par conséquent, puisque le destin cruel m'oblige à mourir, voilà, je tiens à faire remarquer que le collier est encore ici, sur cette table.
Mon collier.
Ah ça, mais...
Pardon, j'ai dit pousse. Monsieur, puisque ce collier, contrairement à ce que je croyais, vous appartient...
Je l'ai acheté à la duchesse de Brève.
Allons donc. Mais j'ai entendu parler de cette histoire-là. Pas très propre. En tout cas, je ne me considère pas comme responsable de ce collier. Il y a ici des individus...
Ça va mal finir !
Il le vise à nouveau. Lupin, qui s'est jeté derrière la statue de Cupidon.
Bah les armes ou il y a de la casse ?
D'Imbleval se précipitant, affolé sur le sous-chef.
Mais vous êtes fou ! Ma statue !
Lupin ébranlant le marbre.
Allons-y !
Un moment ! Voyons, Maresco, laisse-le donc tranquille, cet homme. Il a rendu le collier.
Lupin, qui a reculé jusqu'à l'entrée des modèles.
Évidemment, Maresco. Et puis vois-tu, t'es trop bête. Qu'est-ce qui m'obligeait à me démasquer ? L'affaire est dans le sac, va. Tiens, on frappe. Du renfort qui t'arrive. C'est pas possible, tu as convoqué la garde républicaine. Veux-tu que je t'aide ? À nous trois, on arrivera peut-être.
Il passe son bras derrière lui. On voit qu'il a la clé dans la main. Il est contre la porte des modèles, au premier plan.
Assez parlé, les menottes.
Ah non, c'est drôle.
Enfin quoi ? Que veux-tu ?
Du respect.
Et avec ça ?
Une distance convenable entre toi et moi.
Sinon ?
Sinon, je fous le camp.
Deux agents de police en uniforme lui barrent le chemin.
Imbécile, laissez-moi donc passer !
Au moment où il les écarte, le sous-chef arrive. Il repousse la porte. Lupin se dégage et s'accule au mur.
Raté, Lupin ! Je crois que cette fois...
T'as raison. Je suis pincé. Seulement mes idées forment, hein. Un peu de courtoisie.
Merci les amis. Alors, le poste est prévenu ?
Oui, les camarades ont fait le tour par le boulevard. Vos inspecteurs les conduisent.
Allez donc leur ouvrir.
J'y vais, j'y vais.
Il sort. Les deux agents de police encadrent Lupin.
Pas trop mal tout ça, hein, Lupin?
C'est gentil, mais il y a mieux.
Quoi? Ce n'est pas fini?
Mais si. Après tout, la prison, ça ne dure qu'un temps. Le temps d'entrer et de sortir.
Commençons par y entrer, veux-tu?
T'es pas très rassuré.
Le sous-chef a l'un des deux agents.
Cours en avant, chercher un fiacre. Nous te suivons.
Pas la peine, j'ai mon auto. Au coin du boulevard, le chauffeur Ernest, des Batignolles.
Allons, en route.
Au moment où il tourne le dos, les deux agents de police qui encadrent Lupin saisissent les bras du sous-chef. Il se débat, stupéfait.
Eh bien quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Il les regarde, regarde Lupin et s'écrie.
Crénom de Dieu, des complices!
Il les repousse violemment, se jette sur la porte du fond.
À moi, les amis, à moi!
Il ouvre. Dans le vestibule, on aperçoit six agents de police en uniforme, solides, puissants. Dimbleval et les agents de la sûreté sont auprès d'eux, ligotés, bâillonnés et ficelés sur des chaises. Ils balbutient.
Ah, les bandits!
Ma garde personnelle! Service de la contre-sûreté. De beaux gars, hein?
Sur un signe de Lupin, un des deux premiers agents de police a immobilisé le sous-chef à l'aide de vieilles étoffes. Lupin demande à l'autre.
Tu ne m'as donc pas reconnu tout à l'heure?
Non, chef. Je suis nouveau et il faisait noir. Et puis, d'après Caroline, on s'attendait...
À la barbe rousse, n'est-ce pas? C'est de ma faute.
Il s'est retourné vers les captifs.
Et maintenant, la retraite. Spectacle enchanteur! Si je pouvais prendre un petit croquis.
Tirant de sa poche un petit appareil de photographie et une lampe de magnésium, il braque l'appareil et, la tête penchée sur le viseur.
Le groupe est délicieux, tout à fait réussi. Maresco, pas de grimace. Mais oui, mon gros, t'as l'air pensif. Dimbleval, une risette. Bien, ne bougeons plus. Crac, ça y est, un instantané pour le journal.
Oh, y a la police!
Alors, débandade, effarement.
Demi-tour, par l'escalier des modèles et en bon ordre.
Les agents se sauvent.
Va donc ouvrir, Maresco. On n'entre pas. Où sont mes affaires? Maresco, qu'est-ce que tu as fait de mes défroques? Une seconde, nom d'un chien, vous ne voudriez pourtant pas que je sorte sans chapeau. Dis donc, tu as bien un petit manteau.
Il en trouve un.
Ah, voilà. Merci, te dérange pas.
Par la porte des modèles, entre un des complices en uniforme.
Chef, l'auto est avancé.
Je viens.
Il salue et sort. Les prisonniers font des efforts désespérés pour se délivrer de leurs liens. Lupin, rentrant comme s'il avait oublié quelque chose, va prendre tranquillement le collier dans la poche de Dimbleval.
Maintenant que je sais qu'il n'est plus à toi, j'ai moins de scrupules. Tu vois, le bien mal acquis ne profite jamais qu'à moi.
Il va pour repartir quand Maresco, qui a réussi à dégager un de ses bras, a braqué le revolver vaporisateur que lui avait donné Lupin et il tire en criant.
Tiens, canaille!
Ah, merci, encore! J'adore ce parfum! C'est le parfum de Caroline! À bientôt, monsieur! Sans rancune, hein? Je t'aime bien, au fond.
Il sort. Le sous-chef et Dimbleval se sont levés, à moitié ligotés, à moitié bâillonnés, ils crient, se démène. La statue de Cupidon est renversée. Dimbleval empoignant le sous-chef.
Ma statue! Cupidon! Imbécile, maladroit!
Littérature audio vous a présenté Une aventure d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc. D'honneur de voix ayant participé au projet, Arsène Lupin, Vincent de Lépine.
Dimbleval et montage, Le Moco. Marceline, sa fille, Christine Sétrin. Le complice d'Arsène Lupin, Bernard. Maresco, le sous-chef de la sûreté, Richard Keller. Les agents de police, Guy de Gaujac, Jean et René. Narration, didascalise et coordination, Cocotte.